Europe Matin Weekend, Pierre de Villeneuve.
Et donc au lendemain de ce drame qu'on a peine à qualifier, ce professeur d'histoire géo tué, décapité devant son collège de Conflans-Sainte-Honorine dans les Yvelines, hier soir vers 17h, une dizaine de jours après un cours d'éducation civique pendant lequel ce professeur avait montré les caricatures de Mahomet à ses élèves. Je reçois Alain Bauer, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de criminologie au Conservatoire des Arts et Métiers. Vous avez écrit une quarantaine d'ouvrages sur ce sujet. Des chefs d'État ont bénéficié de vos services, de vos conseils sur les aspects terroristes. Comme ça, à froid, après tout ce qui a été dit à ce stade, comment est-ce que vous traduiriez cet acte ?
Comme la logique d'un processus qui a commencé à Saint-Martin-Falavier, qui s'est poursuivi à Saint-Étienne-du-Rouvray, qui a failli avoir lieu, on n'en était pas loin, devant les anciens locaux de Charlie Hebdo il y a quelques jours, et qui obéissent à une instruction donnée par un individu qui s'appelle Monsieur El Adnani, l'ancien ministre des attentats de l'État islamique qui a quitté cette terre pour rejoindre probablement son créateur, en tout cas celui auquel il croit, qui a appelé tous les djihadistes virtuels ou réels à rejoindre les terres du combat en Syrie et en Irak, et s'ils ne le pouvaient pas ou s'ils en étaient empêchés, à commettre des attentats partout où ils le pouvaient avec n'importe quel moyen à leur disposition. Donc c'est un processus qui était attendu. La chance de la France, c'est que depuis 2015-2016, les services de renseignement sont passés de moins d'une demi-douzaine d'opérations préventives à une soixantaine, mais que le filet, malheureusement, laisse toujours des trous, notamment sur des opérateurs très isolés, mais qui ne sont pas solitaires, contrairement à ce qu'on raconte.
Isolés et pas solitaires, donc on est sûr, cet individu de 18 ans n'a pas agi seul.
Non, ça veut dire que son processus de djihadisation n'est pas un phénomène personnel, comme Monsieur Breivik, par exemple, ou Monsieur Kaczynski, qui commettaient des attentats en leur nom propre et pour leurs motifs propres et selon des domaines où ils n'avaient besoin de personne. Mais il y a une différence, par exemple, un envoyé spécial d'Europe 1 n'est pas un journaliste solitaire, il est juste éloigné de sa rédaction. C'est un peu le concept. L'État islamique a révolutionné les affaires du terrorisme en ayant trois types d'opérateurs, les lions du califat qui sont ses salariés envoyés en mission, les soldats du califat qui sont des ubérisés du terrorisme connus préalablement ou connectés, et des gens qu'ils ne connaissent pas et que parfois ils découvrent après les attentats, mais qui obéissent à leurs instructions et qui signalent qu'ils l'ont fait pour des motifs qui relèvent de ces instructions ou en tout cas d'un processus différent. Donc le Pakistanais devant Charlie Hebdo obéissait à ces instructions, ils ont laissé un message et une indication qui montre bien qu'ils l'ont fait pour des motifs spécifiques et qui ne dépendent pas d'eux-mêmes.
Le sujet est bien trop grave pour présenter, hein, Alain Bauer, mais vous avez utilisé le mot ubérisé.
Ben oui, bien sûr, la sous-traitance en matière de terrorisme est une des révolutions du califat, et l'ubérisation n'a jamais fait rire qui que ce soit, surtout pas ceux qui travaillent dedans.
Sur le mode opératoire, Alain Bauer, la décapitation, ce sont des méthodes de Daesh et surtout de propagande, une forme de message.
Bon, d'abord, je vous rappelle qu'on décapitait en France jusqu'à 1981, que ce processus a été inventé en Occident et pas en Orient, et qu'il était d'ailleurs réservé aux nobles, et que les États généraux souhaitaient qu'on décapite tout le monde pour montrer l'égalité.
Donc je il faut cesser de l'ère récente, Alain Bauer.
Oui, mais il faut cesser d'essentialiser les choses et de considérer que parce que c'est nouveau, on a le droit d'avoir tout oublié. Je précise ça, hein, nous sommes les inventeurs de ce processus, pas les autres. Deuxièmement, de manière récente, effectivement, la décapitation est un processus utilisé dans certains pays et pas dans d'autres, y compris en terre musulmane. Et le terrorisme, c'est à la fois de la violence, de la terreur, mais surtout de la communication. Donc la décapitation est faite pour nous terroriser. C'est un mode de communication, comme
c'était
la bombe était un mode de communication. Oui,
oui,
je vous réponds, mais votre question, elle mérite d'être précisée. Vous êtes journaliste, moi je suis professeur, et nous ne vivons pas ni dans les mêmes temps, ni dans la même perspective temporelle. Donc mon rôle à moi, c'est aussi de faire un petit peu de pédagogie de temps
en temps. Mais on est d'accord sur le terme de communication, et si je vous dis propagande, c'est trop ou c'est pas assez ?
Non, je suis tout à fait d'accord. Le terrorisme, c'est de la propagande. L'essentiel du terrorisme, c'est de la propagande. Les moyens ne sont qu'un outil au service de la propagande. Et le fait qu'il y a communication, prise de photographie, diffusion sur les réseaux sociaux sont des éléments qui démontrent parfaitement, et là nous sommes en parfait accord, ce qu'est un processus de propagande.
Et donc propagande, communication, ça veut dire les caricatures de Mahomet, en l'occurrence, là, il n'y a aucun débat, quiconque les utilise, même à une fin de débat civique, de débat sur la liberté d'expression pour l'apprentissage à l'école, s'oppose à un risque de mort.
C'est clairement ce que eux veulent dire. Et donc, je rappelle que, contrairement à ce qu'on croit, il n'y a pas de droit de blasphème en France. Il n'y a juste pas de délit de blasphème. C'est pas le cas de tous les pays européens. C'est pas le cas de tous les pays du monde. Il y a toujours une infinie difficulté à pouvoir traiter des questions religieuses, y compris dans notre propre pays où la séparation entre l'Église, les Églises et l'État ne s'est pas fait dans la joie et la bonne humeur. Mais c'est vrai que c'est un sujet difficile qui nécessite une mobilisation qui n'est ni politique ni médiatique, mais surtout citoyenne, pour garantir justement ce droit à la liberté.
Oui, mais alors justement, même si vous semblez un peu pessimiste sur la réponse politique, il faut une réponse politique, il faut une réponse pénale à cet acte.
La réponse pénale, elle existe. Il n'y a pas de, il y a rien à en rajouter. Non, il faut juste qu'on finisse le débat qui a profondément divisé les laïcs et les républicains sur la laïcité à adjectif, que j'appelle la laïcité molle, et la laïcité sans adjectif. Ceux qui pensent que la laïcité est neutralité, qui regarde passer les trains, et ceux qui pensent qu'elle est dynamique et qu'elle impose donc, au nom de l'ordre public, le droit de croire, de ne pas croire, de changer de religion, et donc la libre expression. En contrepartie, on n'est pas censé insulter les croyants. Et d'ailleurs, depuis la loi Pleven ou la loi Guesso, nous avons trouvé une sorte d'équilibre à l'expression qui est, on a le droit de penser ce qu'on veut de la religion, on n'est pas là pour insulter ceux qui croient.
Non mais on en revient à la communication dans l'autre sens, cette fois-ci, comment on fait ?
On a réussi à faire ça entre 1905 et le début des années 2000. Donc nous avons 100 ans d'expérience que nous avons sciemment oublié. Nous sommes de grands amnésiques au nom d'une pseudo-neutralité et de tout est égal par ailleurs. Moi je crois pas que la France est une association de communautés qui vivent les unes à côté des autres, ou comme le rappelait Gérard Collomb avant de démissionner de son poste, qui vont vivre les unes contre les autres. Je crois qu'il y a un processus qui est de réaffirmer ce qu'est la construction de l'État et de la nation dans ce pays. C'est l'État qui a créé la nation avec un dispositif qui est désormais républicain. Plus l'État est mou, plus il se réfugie derrière le fait qu'il ne veut pas s'occuper des questions d'opinion et qu'il ne veut pas légiférer sur le terrain, plus il s'exclut du champ et plus il laisse l'espace à ce conflit. C'est comme le code de la route. On a tous le droit d'avoir une voiture. On a inventé le code de la route pour ne pas mourir au volant. Piétons, cyclistes et conducteurs.
Alain Bauer, vous dites que l'État est mou, la menace, elle est là, la délinquance n'a jamais été à un niveau aussi haut. Que se passe-t-il ?
Il se trouve, l'État n'est pas producteur de criminalité, vous savez que délinquance c'est le petit mot pour ne pas vouloir dire criminalité, donc on va utiliser le mot qui est celui qui est reconnu par tout le monde, en tout cas dans le monde scientifique. Il y a une forte augmentation de la violence parce que l'État régulateur, l'État justicier, celui qui a transformé le droit à la vengeance individuelle en sanction collective, a lui aussi décidé de tout réglementer, tout régir, et donc de ne rien appliquer dans sa réalité, d'être mesuré, modéré, de vivre dans des conditions où il a essayé de faire du social dans le judiciaire, bref, de tout mélanger. Il faut que chacun fasse ce qu'il a à faire, et après tout, c'est aux citoyens qui élisent les responsables politiques de prendre leurs responsabilités. On peut se plaindre des politiques, mais c'est nous qui les élisons.
Merci beaucoup Alain Bauer de votre éclairage, professeur de criminologie au Conservatoire des Arts et Métiers. Merci beaucoup d'avoir été en direct sur Europe 1.